À une ce matin, un photographe scolaire emprisonné.
Il prenait en photo les enfants et il sexualisait ensuite les images avec l'intelligence artificielle. Des milliers d'élèves sont potentiellement concernés. Nous sommes en Gironde dans un instant. Dans l'actualité également ce matin, Donald Trump qui accuse le président ukrainien de faire obstacle au plan de paix et de ne même pas l'avoir lu. Le projet d'une allocation unique qui revient sur la table. Un carnet du peintre David spolié par les nazis retrouvé au château de Versailles. C'est une révélation de Radio France. Et puis les icônes de Renault, une R5, une Formule 1 ou encore une Dauphine. La marque Losange a vendu des raretés pour financer son futur musée.
Bienvenue et bon réveil sur France Info.
L'attente est devenue insoutenable à Pauillac, en Gironde. C'est donc là qu'un photographe professionnel qui avait pignon sur rue a été arrêté avant d'être mis en examen et placé en détention. C'est lui qui prenait en photo les enfants à l'école pour la rentrée et les enquêteurs ont découvert qu'il trafiquait, qu'il transformait ensuite des clichés en contenu pédopornographique en utilisant l'IA. Les gendarmes doivent maintenant analyser les images une par une pour identifier les victimes. Il y en a des milliers. Stéphane Iscock, vous êtes allé à Pauillac à la rencontre des parents d'élèves dans les froids.
Laure tient le salon de thé de Pauillac. Son commerce se situe à quelques mètres seulement du studio du photographe. Aujourd'hui, elle se demande si ses deux enfants figurent sur les images saisies par la gendarmerie.
Nos enfants ont été pris en photo par cette personne-là. On a deux petites filles, donc on attend de voir si la gendarmerie nous contacte, tout ça. Donc oui, très très en colère par rapport à ça, c'est sûr. Voilà, moi encore à l'heure d'aujourd'hui, je fais des cauchemars de tout ça et on a du mal hein, à digérer l'info et à se dire que si nos enfants sont dedans, on ne sait pas notre action. Qu'on aura quand on aura la certitude de ça. Quoi.
Dans les rues de Pauillac, tout le monde, ou presque, connaît ce photographe. Cette adolescente a même travaillé pour lui.
J'ai fait un stage avec lui au collège Saint-Jean. Du coup, d'avoir travaillé avec lui et de me rendre compte que finalement, il y a eu tout ça derrière, c'est vrai que c'est assez choquant, oui. Il faisait beaucoup de photos, même pour des mariages, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que son nom était connu.
Sur la vitrine du studio, une affiche indique « fermeture définitive ». Cet habitant de Pauillac résume l'état d'esprit qui règne ici.
On pense bien sûr à toutes ces familles, à toutes ces victimes, je veux dire, parce que c'est criminel, oui. Quand on joue comme ça à ce genre de choses, ben on finit par payer à un moment donné, quoi.
L'enquête s'annonce fastidieuse, mais en attendant son dénouement, le photographe dort en prison. Il a été placé en détention provisoire.
Stéphanie Scock, d'ici Gironde, pour France Info. Quatre personnes sont mortes dans le crash de leur avion dans l'Ariège hier, un petit avion de tourisme. L'accès au lieu de l'accident est difficile. Deux hélicoptères ont été mobilisés pour localiser l'épave. Le parquet est saisi. Une enquête est en cours pour comprendre les causes de ce crash.
7h02 sur France Info, les leaders européens veulent s'afficher unis.
Emmanuel Macron est à Londres aujourd'hui. Le président sera aux côtés du Premier ministre britannique Keir Starmer, du chancelier allemand Friedrich Merz. Unis aux côtés de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky sera sur place, unis face à la Russie, mais aussi face aux États-Unis, alors que Washington tient les Européens à l'écart des négociations sur le plan de paix de Donald Trump. Le président américain qui charge même à nouveau le président ukrainien.
Je dois dire que je suis un peu déçu que le président Zelensky n'ait pas encore lu la proposition. C'était le cas il y a quelques heures encore. Cela convient à la Russie. Bien sûr, la Russie préférerait avoir tout le pays, mais je crois que la Russie est satisfaite de cette proposition. En revanche, je ne suis pas sûr que cela convienne à Zelensky.
Ajoutons que le plan de paix de Donald Trump pour la Thaïlande et le Cambodge, signé début octobre, semble déjà caduc. Les combats ont repris ces dernières heures. Un soldat thaïlandais a été tué dans des affrontements près de la frontière. Bangkok a ordonné à son aviation de mener des frappes du côté cambodgien.
Les associations de défense des plus précaires espèrent y voir plus clair. Elles ont rendez-vous aujourd'hui avec le ministre du Travail.
Pour parler de l'allocation sociale unifiée. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Un texte doit d'ailleurs arriver prochainement, selon le gouvernement, sur la table du Conseil des ministres. En clair, il s'agirait de regrouper plusieurs prestations sociales en une. Pour l'instant, cela reste très flou. Laurine Benjebria, qu'en sait-on à ce stade ?
L'idée est de regrouper le RSA, la prime d'activité et les aides au logement, c'est-à-dire d'harmoniser les conditions de ressources qu'il faut remplir pour toucher ces trois aides qui, aujourd'hui, ont des méthodes de calcul différentes. Une manière de simplifier les démarches, de rendre plus lisibles ces aides sociales et donc de lutter contre le non-recours, sachant qu'aujourd'hui, un tiers des personnes éligibles au RSA ne le demandent même pas. L'autre objectif visé par le gouvernement, c'est de privilégier l'incitation au travail. Un foyer qui travaille doit gagner plus qu'un foyers vivant des aides sociales, insiste le ministre du Travail. Une vision idéologique selon les associations de lutte contre la pauvreté, qui estiment que le travail paye déjà plus que les prestations. Elles se disent inquiètes du manque d'informations sur ce projet et craignent que les allocations diminuent pour certains bénéficiaires.
Les précisions de Laurine Benjebria. Xavier Bertrand accuse Nicolas Sarkozy de vouloir, je cite, « l'union de la droite avec l'extrême droite ». Le président de la région Hauts-de-France réclame une clarification des LR vis-à-vis du RN, alors que l'ancien président écrit dans son livre à paraître mercredi qu'il n'appellera pas au barrage face au Rassemblement national.
Cette déclaration de Nicolas Sarkozy change-t-elle la donne pour 2027 ? On pose la question à Stéphane Zumsteg d'Ipsos, juste après le journal.
Un carnet du peintre David met le château de Versailles dans l'embarras. C'est une révélation de la cellule investigation de Radio France. Cet objet, qui a appartenu au maître français qui a immortalisé le sacre de Napoléon, encore le serment du jeu de paume, se trouve dans les collections du château. Mais on apprend qu'il a été spolié par les nazis pendant la guerre et personne, ni Versailles, ni le ministère de la Culture ne l'avait remarqué. Stéphane Perre, c'est un descendant du propriétaire spolié qui vous a alerté.
Oui, il y a quelques mois, Joseph découvre par hasard sur Internet que ce carnet fait partie des collections de Versailles. Depuis 1940, cette famille, qui n'est pas juive, croyait l'œuvre à jamais disparue après l'occupation de sa maison dans le Morvan par les nazis. La famille avait signalé le vol de cette œuvre à l'État français. Joseph comprend que le château de Versailles a acheté légalement le carnet juste après la guerre et que depuis, le musée n'a jamais vérifié son origine.
Moi, je suis tombé des nues. Et en effet, oui, c'est quelque chose d'important. Enfin, c'est une œuvre phare de David. C'est assez étonnant quand on me dit, voilà, il y a 100 policiers qui vont rechercher des bijoux du Louvre, alors que pour rendre les œuvres spoliées, je trouve que les moyens sont très, très faibles.
À Versailles, une équipe de 3 conservateurs travaille activement sur les œuvres des collections pour vérifier leur provenance. Ils n'ont jamais examiné ce carnet, pourtant exposé au Louvre lors du bicentenaire de la Révolution. Avant d'être acheté par Versailles, le carnet avait été vendu aux enchères à Munich, au cœur du Reich, en pleine guerre mondiale. Cette information, Versailles en disposait, mais en plus de 70 ans, cela n'a déclenché aucune alerte. Contacté par la cellule investigation, le ministère de la Culture annonce que des recherches vont être menées sur ce carnet et les ayants droit vont être contactés.
Merci Stéphane Perre, on retrouve votre enquête complète pour la cellule investigation de Radio France sur franceinfo.fr.
Du football avec Nice qui dégringole encore dans le classement.
Oui, le classement de Ligue 1 avec une nouvelle défaite pour l'OGC dans le championnat, battu 1-0 par Angers. Les Niçois passent à la 12e place et se rapprochent encore de la zone de relégation. Autre match de cette 15e journée, Lorient-Lyon qui s'est soldé par une victoire des Lorientais, 1-0, match nul, 0 partout entre le Havre et le Paris FC. Un mot de Formule 1, Jérôme, on y reviendra plus longuement dans le journal des sports dans 10 minutes, mais Lando Norris, le Britannique, est sacré champion du monde. C'est le premier champion qui ne s'appelle pas Lewis Hamilton ou Max Verstappen depuis 2017. Une Formule 1, justement, il s'en est vendu une hier aux enchères. Renault a mis en vente une centaine de ses voitures d'exception, Valentin Dunat, tout cela pour financer son futur musée sur le site de Flins.
Des dizaines de curieux se sont massés près de ces véhicules présentés comme des icônes. Ludovic, passionné d'automobile et surtout de la marque Losange, est venu de Normandie.
C'est des voitures qui sont iconiques par rapport à ce que vous avez vécu. Et puis il y en a d'autres qui sont iconiques par rapport aux résultats qu'elles ont pu faire en course.
Et comment vous expliquez que vous avez préféré Renault à Citroën par exemple ?
C'est mon parcours familial. Mon paternel était Renault, donc voilà.
C'est donc une affaire de passionnés et de gros sous.
700 000 !
Mathieu Lamour, président d'Arcurial Motor Cars, a souhaité construire...
Une vente historique, une vente unique et qui raconte l'histoire de la marque. Notre métier, ensuite, c'est d'estimer chaque voiture. Par exemple, pour les voitures de compétition, les Formule 1, on estime, grâce à un palmarès, qui est le pilote qui était derrière le volant. Déjà, imaginez, un casque d'Alain Prost se vend autour de 100 000 euros. Alors, espérons que les Formule 1 seront à la hauteur de tout cela.
Et la vente a bien été à la hauteur, hein, l'un des modèles les plus convoités, une Formule 1 avec laquelle Alain Prost a remporté le Grand Prix de Spa-Francorchamps, a été adjugé...
1 million
de quoi permettre à Renault d'étoffer son futur musée qui devrait ouvrir ses portes dans 2 ans, en décembre 2027.
France Info reportage signé Valentin Dunat. Allez Jérôme, vous allez peut-être pouvoir vous faire un petit billet en vendant votre Fuego. Un gros billet peut-être. Non, c'est une Renault 21, je ne sais plus.
Je sais qu'elle vaut beaucoup moins cher, c'est tout. William Giacosta, merci beaucoup. Christine Peña, on va pas rouler en cabriolet. Encore que, il fait doux aujourd'hui.
Mais oui, ah bah si, dans le sud, nettement. Hein. Ça sera printanier cet après-midi avec le soleil qui s'impose sur toute la moitié sud. On a une France coupée en deux. Près de 20 degrés, près des Pyrénées, c'est là où il fera le plus doux. Et puis nous avons cette douceur qui est déjà en place. sur la moitié nord sous les pluies qui circulent, surtout entre la Bretagne et la Normandie, des pluies un peu plus continues avec 14 à 15 degrés là en ce moment. Ce sera un peu la même température cet après-midi, 15 degrés à Lille, à Reims, à Abbeville, à Paris, à Metz et à Dijon également.
Christine Peña.
Médias en scène, le jeudi 15 janvier à la Maison de la Radio et de la Musique à Paris et en streaming sur mediaensene.com. Intelligence artificielle, désinformation, écologie, nouveaux modèles économiques. Comment les médias se réinventent dans un monde en pleine mutation. Médias en scène, le Festival international des médias de demain, jeudi 15 janvier, un événement Les Échos, Le Parisien et France Info. Inscription gratuite sur mediaensene.com.
Avec AXA, Engie, BNP Paribas, Webedia et Ipsos BVA.
Et à 7h10 sur France Info, quelques rendez-vous dans la prochaine demi-heure face à la pénurie de soldats. Reportage sur les robots tueurs sur le champ de bataille ukrainien.
Ça, c'est le lance-roquette. Et ça, c'est la mitrailleuse.
Un seul de ces robots peut remplacer la force de frappe d'une petite unité. C'est la guerre du futur.
Un reportage tout à l'heure à 7h20, mais tout de suite sur France Info. Une alliance entre les Républicains et le RN. Pourquoi le livre de Nicolas Sarkozy sème le trouble à droite ?
France Info, 6h-9h. Jérôme Chapuis.
Nous ne voterons jamais pour le Front National. Toute responsable UMP qui conclura un accord avec le Front National sera immédiatement exclue. Nous devons convaincre les Français qu'on n'est pas obligé de renoncer à notre indépendance et à nos convictions.
10 ans séparent cette déclaration de Nicolas Sarkozy en 2015 du livre qu'il sort après-demain, livre écrit lors de ses 3 semaines en prison. Mon ancienne formation politique ne peut plus à elle seule incarner l'avenir, écrit l'ancien président. Alors, RN, LR, même combat, cette déclaration change-t-elle la donne pour 2027 ? On pose toutes ces questions à Stéphane Zumsteg d'Ipsos BVA, bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Rémy Baudot, bonjour Jean-Rémy.
Bonjour Jérôme,
je commence
bonjour
par vous, d'abord les faits, vous avez lu ce livre Jean-Rémy, et il rapporte notamment cette conversation que Nicolas Sarkozy a eue en septembre avec la présidente du RN.
Oui, il y a 2 passages dans le livre où Nicolas Sarkozy partage le fond de sa pensée sur la droite. Page 72, quand il raconte ses échanges avec Marine Le Pen. L'ancien président salue le soutien que la patronne des députés RN a pu lui apporter après sa condamnation et il retranscrit leur échange téléphonique. Marine Le Pen, votre voix porte sur l'électorat de la droite populaire. Vous associerez-vous à un quelconque front républicain ? Réponse de Nicolas Sarkozy, dit-il sans ambiguïté, non et de surcroît, je l'assumerai en prenant le moment venu une position publique sur le sujet, fin de citation. Voilà qui est donc fait, sa position est désormais publique, Nicolas Sarkozy refusera à l'avenir l'idée même de Front Républicain, de barrage contre l'extrême droite, terminer les heures où il combattait le Front National. Une 100 pages plus loin, il demande même à sortir de ce qu'il appelle un cordon sanitaire factice autour du RN. Un parti qui, selon lui, je cite, « ne constitue pas un danger pour la République ».
Et est-ce que Nicolas Sarkozy veut un rapprochement entre les Républicains et le RN ?
Alors en réalité, Nicolas Sarkozy parle stratégie politique. Page 192, il écrit « Beaucoup des électeurs de Marine Le Pen et Jordan Bardella étaient à mes côtés quand j'étais dans la politique active ». Fin de citation. C'est vrai que Nicolas Sarkozy a remporté l'Élysée en 2007 en siphonnant le vote Le Pen. Sauf qu'à l'époque, il n'avait pas de mots assez durs contre l'extrême droite. Aujourd'hui, dans son livre, il appelle à ne pas tourner le dos au RN. Insulter les dirigeants du Rassemblement National, c'est insulter leurs électeurs, donc les nôtres, au moins potentiellement. Et il rajoute « Mon ancienne formation politique n'est pas aujourd'hui en position de force. Elle ne peut plus, à elle seule, espérer incarner l'avenir. » Par ses quelques lignes, par ses écrits, par ses déclarations, par sa bienveillance envers Marine Le Pen, par ses rendez-vous privés avec Jordan Bardella, Nicolas Sarkozy banalise le rapprochement entre la droite et l'extrême droite et ouvre clairement la voie à ce qui est appelé l'union des droites.
Merci Jean-Rémy. Alors Stéphane Zumsteg, directeur du département politique et opinion Ipsos BVA, d'abord sur cette conversation que Nicolas Sarkozy rapporte lui-même entre l'ancien président de l'UMP qu'il est, l'ancien chef de l'État et la présidente du Rassemblement National, c'est radicalement nouveau.
Oui, c'est nouveau, c'est très nouveau, c'est presque surprenant, parce que là encore, Nicolas Sarkozy, dans l'esprit de l'électorat de droite classique, c'est celui qui, Jean-Rémy vient de le dire, avait réussi à ramener le Front National de l'époque à un score très décevant lors de la présidentielle de 2007, 10% pour Jean-Marie Le Pen. C'était l'époque du Karcher, c'était l'époque du premier flic de France, ancien ministre de l'Intérieur, mais qui s'inscrivait quand même dans la lignée de Jacques Chirac, avec ce cordon sanitaire. Là, ça change complètement. C'est une digue de plus qui saute, mais c'est une digue orale pour l'instant. Tout ça ne se traduit pas par des accords concrets de désistement, d'alliance ou de fusion de listes dans un entre-deux-tours d'élection pour l'instant. Et se pose quand même, là, je pense, la question de savoir si Nicolas Sarkozy est toujours influent auprès de l'électorat de droite. Et ça, je pense qu'on peut être un peu plus dubitatif.
On va en parler, mais d'abord, pour souligner donc la nouveauté de cette déclaration, Nicolas Sarkozy, ça a été un défenseur du barrage au Front National, et même au Rassemblement National de Marine Le Pen.
Oui, absolument, mais ce n'est pas le premier aussi à changer. Rappelez-vous, il y a eu ce barrage républicain au second tour des élections législatives, et le jour suivant, la France insoumise et une partie de la gauche ne cessaient d'attaquer le bloc central et vice-versa. Donc de toute façon, les gens qui ont abandonné très très vite dans les faits, dans les déclarations, le barrage national, on les retrouve un petit peu partout. Mais là, il s'agit effectivement de l'ancien président de la République. C'est une bonne nouvelle pour le Rassemblement National parce que ça le banalise, ça l'institutionnalise. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les Républicains, ces déclarations du président? Moi, je n'en suis pas sûr.
En tout cas, ça sème le trouble. On va réécouter par exemple ce que disait hier Xavier Bertrand, le président LR des Hauts-de-France.
Union des droites? Non. Non, c'est l'union de la droite avec l'extrême droite. J'entends trop de personnalités chez les Républicains qui disent quand même, quand il y a une élection législative, pas une voix pour la gauche. Non, je voudrais entendre pas une voix pour le Rassemblement National. Moi, je suis capable de dire ni LFI, ni RN.
Alors Stéphane Zumsteck, là, ce qu'on entend dans la bouche de Xavier Bertrand, c'est la ligne traditionnelle des Républicains. Est-ce qu'on peut dire que Nicolas Sarkozy, lui, quitte cette ligne pour rejoindre celle d'Éric Ciotti, qui s'était allié au Rassemblement National lors des dernières législatives?
Je pense que pour l'instant, ça ne va pas aussi loin que ça. Là, c'est aussi, pour l'ancien président, un moyen de se rappeler au bon souvenir des Français, des électeurs, des électrices, de faire aussi le buzz, quelque part, même s'il est sans doute sincère dans ses propos. Mais
c'est quand même un peu plus que pour vendre son livre. Ça va avoir des conséquences.
Oui, bien sûr. Alors, ça va avoir des conséquences, oui. Si jamais cette union des droites se mettait en place à un moment donné, je dis bien si jamais c'était le cas. Là encore, moi, je doute de l'efficacité électorale d'une telle alliance, d'un tel rapprochement pour la droite républicaine. L'enjeu pour les Républicains, c'est de faire la démonstration de leur spécificité, de leur utilité dans le paysage politique national. Ils sont déjà pris en étau entre, d'un côté, un bloc central qui les a, pour le coup, presque absorbés depuis 2017 et la nomination d'Édouard Philippe à Matignon. Et ça a continué encore avec 6 ministres LR qui ont défié les consignes de Bruno Retailleau en restant ou en entrant dans le gouvernement il y a quelques semaines. Et le Rassemblement National. Quel avenir pour les LR qui aujourd'hui sont affaiblis électoralement de rejoindre un parti ultra dominant, ultra puissant, le Rassemblement National? Si ça se passait, il y aurait fort à parier qu'on serait un peu dans un scénario à l'italienne avec la droite, l'extrême droite qui en fait absorberait. Il ne s'agirait pas d'un rapprochement, ce serait une fusion, absorption de la part de l'extrême droite à l'encontre des Républicains.
Donc le risque pour LR, c'est l'effacement,
l'effacement, et c'est aussi l'explosion du parti avec la ligne plus traditionnelle que vous venez d'évoquer. Évidemment qu'une grande partie, ou une partie importante en tout cas, des cadres et des dirigeants quitteraient immédiatement ce parti.
Il faut parler de l'électorat, parce que vous scrutez l'opinion pour Ipsos BVA, Stéphane Zumsteg. L'électorat LR et puis les adhérents, vraiment les militants, ils en pensent quoi de cette union avec le Rassemblement National?
Alors, les sympathisants, évidemment, ils se sont droitisés au cours des années. Évidemment que sur le régalien, sur les questions notamment d'immigration, de lutte contre l'insécurité, ils pensent presque la même chose, ou parfois la même chose, que l'électorat du Rassemblement National. Ça, c'est un fait. Est-ce que pour autant, les gens qui sont restés fidèles en dépit de tout ce que la droite a vécu ces dernières années, depuis 2017, serait prêt à ce rapprochement, à cette fusion? Pas forcément. Il y a à peu près dans les enquêtes un tiers de l'électorat qui est favorable à cette alliance, un tiers qui préfère finalement une alliance avec le bloc central, et un dernier tiers qui souhaiterait que les LR gardent leur ligne spécifique. Donc vous voyez, les choses ne se feraient pas forcément avec grande fluidité, même s'il y a un élément très important. Dans l'enquête Fracture française qu'Ipsos BVA a réalisée très très récemment, qu'est-ce que l'on voit? Il y a une majorité assez nette des sympathisants LR qui considèrent que le RN est capable de gouverner. Donc le RN ne fait plus peur. Est-ce que pour autant on est prêt à s'allier avec lui? Ça, c'est autre chose.
Et on renvoie donc à cette enquête Fracture française d'Ipsos BVA. Merci beaucoup Stéphane Zumsteck d'être passé par France Info. Merci également à Jean-Rémy Baudeau, Stéphane Zumsteck. Je rappelle que vous êtes le directeur du département politique et opinion d'Ipsos BVA. 7h19.
France Info, 6h-9h.
Et avant notre reportage sur les robots tueurs sur le champ de bataille ukrainien, l'info en une minute. Diane Ferschit. Et à la une lors de la reprise pour l'immobilier ancien.
Reprise timide selon le bilan 2025 des notaires publié aujourd'hui et que France Info a pu consulter. 11% de ventes en plus sur un an. C'est en Gironde que le marché repart le mieux. Emmanuel Macron à Londres aujourd'hui pour une nouvelle réunion des alliés européens de l'Ukraine. Nouvelle rencontre avec Volodymyr Zelensky et le chancelier allemand ainsi que le premier ministre britannique. Au menu des discussions, les négociations actuelles sur le plan de paix proposé par Washington. Donald Trump de son côté accuse Volodymyr Zelensky de ne pas avoir lu ce plan de paix. Il se dit très déçu. Trois hommes mis en examen et placés sous contrôle judiciaire à Paris, suspectés d'avoir violé une adolescente de 13 ans dans les toilettes d'un restaurant KFC dans le quartier des Halles à Paris. Il y a une semaine, ils avaient pu être interpellés. La police avait été alertée par des passants. Des ouvrages du département Antiquité égyptienne du Louvre endommagés par une fuite d'eau. Elle s'est produite le mois dernier. 300 à 400 ouvrages concernés. Des ouvrages importants, mais pas précieux selon la direction du musée.
France Info. On en parlait dans le fil info alors que le président ukrainien vient une fois de plus rechercher le soutien des Européens à Londres. Une révolution sur le champ de bataille. La guerre ne cesse d'évoluer. Les drones, on le sait, ont changé la stratégie militaire. Et depuis quelques mois, de nouvelles machines de guerre sont apparues. Des robots terrestres de combat se développent à grande vitesse au point de remplacer les fantassins. Boris Loumagne, vous avez pu assister à une démonstration dans la région de Zaporijjia.
Les Ukrainiens appellent ça un drone terrestre. Mais pour le visualiser, il faut plutôt s'imaginer une sorte de gros cube métallique monté sur quatre roues motrices et équipé d'une caméra et de puissantes armes de guerre.
Apprendre à piloter ce robot, c'est pas compliqué.
Max est instructeur, c'est lui qui forme les futurs pilotes de robots.
Là, vous avez la télécommande avec écran intégré. Là, vous avez le joystick. Avant, arrière, gauche, droite. Et ça, c'est pour tirer. Ça, c'est le lance-roquette. Et ça, c'est la mitrailleuse.
Ici en Ukraine, avec une armée qui peine à recruter de nouveaux hommes, ces robots sont une aubaine pour Sergui, qui est officier dans cette brigade.
Les robots permettent d'économiser des hommes sur le champ de bataille. Un seul de ces robots peut remplacer la force de frappe d'une petite unité. C'est la guerre du futur. Elle est là, sous nos yeux.
Et évidemment, les Russes ne sont pas en reste. Eux aussi développent des robots de combat.
Comme dans tous les domaines, on se tire la bourre avec eux. C'est un combat de tous les instants.
Yegor, lui, est ingénieur dans l'entreprise ukrainienne qui produit ces robots. Le jeune homme de 23 ans doit sans cesse améliorer cette technologie, notamment grâce à l'intelligence artificielle.
Pour le moment, le robot se sert de l'IA pour repérer une cible en détectant son mouvement. Mais bientôt, avec quelques modifications, l'IA pourra bientôt viser elle-même et décider de tirer sur la cible.
En quelques mois, l'entreprise de Yegor a vendu plus d'un millier de robots de combat à l'armée ukrainienne.
C'était Boris Loumagne en Ukraine pour France Info. Les sports. Bonjour Guillaume Batin.
Bonjour Jean.
Le champion du monde de Formule 1 s'appelle Lando Norris.
Au bout du suspense à l'issue du dernier Grand Prix de la saison hier à Abu Dhabi, c'est donc un pilote anglais au volant d'une voiture anglaise, une McLaren, qui décroche le titre de champion du monde de Formule 1, Fabrice Abgral.
Il n'est pas le plus charismatique et pas forcément le plus rapide, mais Lando Norris est un fin stratège, comme il l'a prouvé hier malgré la pression de l'enjeu. Il n'a pas cherché à remporter la course, juste la terminer prudemment sur le podium pour s'assurer mathématiquement le titre, et ça, sans trembler ni paniquer. C'était propre et efficace, à l'image de ce pilote de 26 ans, vainqueur de 7 courses cette saison.
C'est quelqu'un qui a l'air d'être structuré, dans les moments difficiles, un peu détaché, le prendre avec philosophie.
L'ex-pilote de F1, Olivier Panis.
C'est un mec qui part, tu peux aller boire le café, manger, tu sais que s'il n'y a pas de problème de stratégie ou quoi que ce soit, tu peux revenir à l'arrivée, il va être là quoi.
Lando Norris est pilote McLaren depuis 2019, mais il a dû attendre l'an passé pour remporter à Miami son premier Grand Prix, confirmant un potentiel que McLaren a su exploiter cette saison. L'ex-pilote de F1, Jean Alesi.
Il a aujourd'hui chez McLaren une position tellement évidente dans le sens où on a l'impression que tout est fait pour lui. C'est un peu le golden boy des pilotes anglais. Il est d'une famille aisée, une famille soudée. Papa et une maman qui l'ont accompagné toute sa carrière. Ça compte beaucoup.
Le sacre de Lando Norris, c'est la fin d'une double domination, celle d'Hamilton et Verstappen, qui depuis 2017 s'étaient partagés tous les titres mondiaux.
Fabrice Abgral, championne du monde, elles le sont déjà 3 fois. Elles rêvent d'un 4e titre déjà qualifié pour les quarts de finale. Les handballeuses françaises jouent ce soir face aux Pays-Bas pour la première place du groupe 1.
À 2 mois des Jeux Olympiques d'hiver, Quentin Fillon-Maillet montre le chemin à l'équipe de France de biathlon.
C'est la première victoire individuelle de la saison pour un membre de l'équipe de France. Quentin Fillon-Maillet a remporté le sprint à Östersund hier en Suède.
J'aborde cette saison comme si mon palmarès était vierge. Peu importe ce qui a été fait par le passé, j'ai envie d'aborder ces courses-là comme un athlète qui est jeune et qui a vraiment, vraiment faim. Je savais qu'il y avait des chances de pouvoir gagner aujourd'hui. Après, de là de le concrétiser, c'était encore différent. Mais ouais, vraiment beaucoup de plaisir parce que ça a été une course sous tension. Ça fait vraiment du bien pour la confiance pour la suite de saison.
En Ligue 1 de football, Lyon s'est incliné hier soir à Lorient 1-0. Angers s'impose à Nice 1-0. C'est la 7e défaite consécutive des Niçois, toutes compétitions confondues. Les ultras du club, les supporters ont déserté les tribunes et appellent à la démission des dirigeants.
Merci, c'était Guillaume Batin.
Il est 7h25 sur France Info, il fait 10 à Angoulême.
Et c'est l'heure du vrai ou faux. Bonjour Valentine Joubin.
Bonjour.
Avec cette question ce matin, faudra-t-il bientôt déclarer sur le site des impôts tous les dons entre particuliers, même les cadeaux de Noël?
Et c'est en tout cas ce que disent de nombreux posts sur les réseaux sociaux, sur TikTok notamment. Des vidéos affirment que la mesure entrera en vigueur l'année prochaine.
À partir du 1er janvier 2026, la France a clairement décidé un truc historique. Si tu veux donner 100 balles à ton fils, tu devras le déclarer.
Tout devra passer par la case déclaration numérique. Donc t'es là, tu dépannes 50 euros à ta copine, ton pote, etc. Il va falloir déclarer.
Alors c'est vrai ou c'est faux?
Alors il y a un peu de vrai et beaucoup de faux. On va prendre les choses dans l'ordre. D'abord, la déclaration aux impôts, elle est déjà obligatoire pour certains dons entre particuliers. La seule chose qui changera au 1er janvier, c'est que cette démarche se fera uniquement en ligne. Alors qu'on pouvait jusqu'ici la faire par courrier ou dans un centre des finances publiques. Ça concerne les dons d'argent, d'objets ou les dons d'actions en bourse. Attention, ce n'est pas le donateur, mais la personne qui reçoit le don qui doit faire cette déclaration.
Donc, la paire de baskets que je vais offrir à mes enfants, à mon neveu, à Noël, il va devoir la déclarer ou pas?
Non, les cadeaux liés à un événement particulier ne sont pas concernés. C'est ce qu'on appelle en droit les présents d'usage, les étrennes de janvier, les cadeaux de mariage ou encore une récompense pour un diplôme validé. Tous ces dons de circonstances n'ont pas besoin d'être déclaré.
Et si le don n'est pas lié à un événement?
Alors dans ce cas-là, c'est le montant du don qui compte. Il n'y a pas de seuil minimal qui oblige à remplir une déclaration. Ce que nous a dit la direction des finances publiques, c'est que c'est plutôt une affaire de proportion. Si par exemple vous donnez quelques pièces ou billets d'argent de poche à votre enfant, ça n'a pas à être déclaré. Mais si vous lui faites un virement de plusieurs milliers d'euros, là, il faudra logiquement le faire. Ça ne veut pas dire que cette somme sera imposable. La plupart des dons ne sont pas imposés grâce à l'abattement fiscal qui est de 100 000 euros maximum tous les 15 ans.
Voilà, donc on continue à se faire des cadeaux. Merci Valentine Joubin. La météo dans un instant.
Chez Orange, on sait que Emma, pour Noël, elle veut...
un tel, quoi.
Mais pour sa mère, un premier téléphone...
c'est stressant.
Pour les mettre d'accord, Orange propose le smartphone Honor X5C Plus à 49 euros au lieu de 99 euros avec Saferphone, le premier forfait mobile sans engagement qui protège vos enfants. Alors on dit...
Merci.
Orange est là.
Offre valable jusqu'au 4 février 2026, réservée aux nouveaux clients Saferphone. Remboursement sur facture mobile après validation de la demande. Détails et formulaires de demande de remboursement sur orange.fr.
France
Info Météo avec les cafés Malongo, torréfacteur engagé depuis 30 ans dans le commerce équitable. Les petits producteurs font les grands cafés sur malongo.com.
Encore un peu de pluie sur le nord, Christine
Peignard. Mais oui, ces pluies devraient circuler encore aujourd'hui entre la Bretagne, la Normandie, le nord, la Champagne. Les averses seront plus marquées sur l'estuaire de la Loire, à la baie de Seine, sur la Bretagne, avec quelques gouttes sur Paris, mais pas grand-chose sur Paris. On devrait quand même y échapper. Le vent va se renforcer d'ailleurs en Bretagne en fin de journée. Alors le soleil devrait réussir à trouer le ciel entre les pays de la Loire, le centre-val de Loire, la Bourgogne. De très belles éclaircies sont prévues en tout cas, et puis les pluies vont s'évacuer par le nord en cours d'après-midi. Sur la moitié sud, eh bien nous restons avec un ciel dégagé. À noter, au lever du jour, on a pas mal de brouillard et notamment un peu de grisaille là en vallée de la Garonne, mais ça va se lever. Le vent devrait rester assez soutenu sur le golfe du Morbihan, la pointe de la Bretagne, et puis également on a le vent d'automne dans le sud qui devrait se lever. Nous avons une sensation printanière qui va s'installer, surtout au sud avec près de 20 degrés près des Pyrénées. C'est là où il fera le plus doux aujourd'hui. On a entre 14 et 15 degrés quand même sur la moitié nord, mais déjà il fait très très doux ce matin, exceptionnel. Demain également, la douceur restera en place, peut-être un peu plus marquée d'ailleurs, et à partir de mercredi, doucement, les températures vont commencer à baisser.
Merci Christine Peignat. Je vous donne tout de suite un rendez-vous dans un quart d'heure sur France Info. France Info sur une plateforme gazière destinée à réduire notre dépendance à la Russie. C'est un reportage exceptionnel. Il sera 8h moins le quart. Bienvenue dans le 6-9 de France Info. Il est 7h30. Et c'est le journal de William Gay-Costa.
Les images sont impressionnantes à tel point que le parquet de Châteauroux a ouvert une enquête. On y voit un chasseur tiré sur un sanglier à bout portant sur une route fréquentée dans une zone commerciale de la ville. Il ouvre le feu alors que des voitures sont à proximité. Jérôme Collin, vous avez pu rencontrer la passagère d'une de ces voitures. Elle a tout filmé, elle a filmé cet homme de 76 ans qui ouvre le feu.
Le coup de feu est parti soudainement. Lucie filme la scène avec son téléphone. Le chasseur est juste devant la voiture dans laquelle elle se trouve.
Du coin de l'œil, en fait, je vois le chasseur qui pointe son arme et il tire. J'ai vraiment eu très très peur. Je trouve ça abominable d'avoir été témoin de ça.
L'enquête devra déterminer si le tir était justifié pour des raisons de sécurité. Pour Lucie, c'est clair, le sanglier n'était absolument pas menaçant.
Il n'y avait rien de mal, il n'était pas agressif. Il essayait de passer de l'autre côté, mais je me dis, oh, bah, c'est un sanglier, le monsieur il est en train de le contenir.
Le procureur de la République de Châteauroux qualifie les faits de particulièrement graves et choquants. Un avis partagé par Laurent Gandillot, président de la Fédération de chasse de l'Indre.
C'est pour nous un événement qui est considérable parce que autant la Fédération défend tous les types de chasse, autant la Fédération ne défend pas tous les types de chasseurs.
Les chasseurs n'avaient visiblement pas de tenue pour les identifier comme tels et l'angle de tir n'était peut-être pas dans les règles.
La vidéo laisse supposer qu'il y a peut-être eu quelques libertés, c'est le moins qu'on puisse dire, avec les consignes de sécurité. Les chasseurs qui manqueraient au respect des règles de sécurité les plus élémentaires portent un tort considérable à l'ensemble de ceux qui se comportent bien.
La Fédération de chasse de l'Indre se dit prête à se constituer partie civile en cas de besoin. Elle rappelle néanmoins que ces événements restent très rares.
Jérôme Collin d'ici Berry pour France Info. L'auteur de ce tir à bout portant, l'homme de 76 ans, a été placé en garde à vue. La reprise est timide, mais elle est bien là pour le marché de l'immobilier ancien. Il va mieux, c'est ce que montre le bilan 2025 des notaires. Marina Capitaine, il est publié aujourd'hui et révélé en exclusivité sur France Info.
11% de ventes en plus sur un an et c'est en Gironde que ça repart le plus fort, 18% de hausse. Mais la tendance est la même partout, sauf dans la Creuse. Les prix remontent eux aussi pour les maisons et les appartements. Et sur ces derniers, si on fait un top 5 des villes les plus chères, Paris est toujours très loin devant, avec un prix médian de 9 570 euros du mètre carré, suivi par Nice à 4 750 euros, puis Lyon, Bordeaux et Lille, première ville en dessous de 4 000 euros. A l'inverse, le mètre carré le plus abordable de France est à 1 150 euros et il se trouve à Saint-Étienne. Puis on passe la barre des 2 000 au Havre, suivi par Grenoble, Orléans et Reims. Un autre signe de reprise, c'est le temps de détention d'un logement. Il se remet à diminuer après plusieurs années d'allongement. Aujourd'hui, en moyenne, on garde son bien immobilier pendant 12 ans et 5 mois.
Merci Marina Capitaine. On retrouve ce bilan des notaires sur franceinfo.fr. Les cas de bronchiolite commencent à saturer les hôpitaux. 14 bébés d'Île-de-France ont dû être transférés dans d'autres régions car les services pédiatriques sont donc saturés, transférés essentiellement à Reims ou à Rouen. L'intersyndicale du Louvre se réunit ce matin. Il sera question, entre autres, d'un nouvel incident après le cambriolage du mois d'octobre. Cette fois, des ouvrages du département d'égyptologie ont été endommagés par une infiltration d'eau. Information révélée hier, ce ne sont pas des ouvrages précieux. La France appelle ses ressortissants au Bénin à la plus grande prudence alors que le pays d'Afrique de l'Ouest a été le théâtre hier d'une tentative de coup d'État. Des militaires ont fait irruption à la télévision annonçant démettre de ses fonctions le président Talon. Lui assure que la situation est désormais entièrement sous contrôle. Le Nigeria voisin confirme d'ailleurs avoir mené des frappes sur la capitale Cotonou et déployé des soldats à la demande du Bénin pour contrer ce putsch. Et puis Donald Trump va-t-il faire capoter la fusion Netflix-Warner Bros? La plateforme de streaming a annoncé qu'elle comptait prendre le contrôle pour 83 milliards de dollars du studio hollywoodien pour créer un mastodonte du divertissement. Et il serait peut-être trop gros, trop dominant, prévient le président américain, qui compte s'impliquer dans le dossier. D'ailleurs, Jérôme, Netflix et la Maison Blanche, la relation a toujours été étroite. Le tout-doum que l'on a entendu, rappelons qu'il s'agit du bruit que fait Frank Underwood, le président de la série House of Cards, en tapant deux fois avec sa bague sur le bureau ovale, tout-doum. Et voilà d'où ça vient.
Merci William Gay-Costa. Je suis sûr que vous serez tout à l'heure avec nous, juste avant 8h, en tout cas à l'écoute forcément, pour les résultats du Exactement. Championnat du monde de tableur Excel. Ce sera dans l'œil de Constance, je sais que vous faites partie
toujours
des
sur Excel.
Meilleurs utilisateurs. Tiens, tableur Excel aussi qui donne sûrement du fil à retordre au gouvernement, le budget de la sécurité sociale. Avant le vote décisif demain, on va en parler dans le décryptage éco et l'édito politique. Le texte réduit-il le déficit de manière significative? Et puis Sébastien Lecornu peut-il obtenir une majorité? Ce sera tout cela à 8h-10. Mais tout de suite, la France et l'Europe peuvent-elles imposer des droits de douane à la Chine?
France Info, 6h-9h, Jérôme Chapuis.
À peine revenu de 3 jours en Chine, Emmanuel Macron menace Pékin de prendre des mesures comme les États-Unis, par exemple, sur les droits de douane. Pourquoi le dit-il? Et est-ce réaliste? Avec nous, Sébastien Jean, bonjour.
Bonjour.
Économiste et spécialiste du commerce international, professeur d'économie au Conservatoire national des arts et métiers, directeur associé à l'Institut français des relations internationales. Et nous sommes également avec Sébastien Berriot. Bonjour.
Oui, bonjour.
En direct de Pékin, je vais d'ailleurs commencer par vous. Sébastien Berriot, ça veut dire que le voyage d'Emmanuel Macron s'est mal passé, cette déclaration, à son retour?
Alors, un échec, oui, on peut le dire comme ça, parce que certes, Emmanuel Macron a eu droit à un protocole spécial, accueilli avec tous les honneurs par Xi Jinping, mais sur le fond, les demandes françaises sur le plan commercial sont restées quasiment sans réponse. Le président français a exigé que la Chine prenne enfin des initiatives pour rééquilibrer les échanges commerciaux, mais en guise de réponse, seulement un plaidoyer très général en faveur de la coopération, aucun engagement précis avec des chiffres et des dates, et donc aucune garantie que la Chine importe davantage de produits en provenance de la France. Et c'est donc dans ce contexte que, de retour à Paris, Emmanuel Macron a décidé de hausser le ton en menaçant les produits chinois de droits de douane, mais pas de quoi vraiment inquiété ici à Pékin, d'abord parce que, il faut le dire, le marché français est tout petit pour la Chine. Derrière, il y a bien sûr le marché européen, mais les Chinois savent que l'UE est divisée et que les menaces du président français ne vont pas forcément faire l'unanimité parmi les 27.
Alors Sébastien Jean, professeur d'économie au CNAM, ces déclarations d'Emmanuel Macron chez nos confrères des Échos, c'est une potentielle déclaration de guerre commerciale avec la Chine?
Non, je crois qu'il ne faut pas aller aussi vite. Il y a pas mal de manières différentes d'approcher ce problème. Aujourd'hui, on a une situation très déséquilibrée, une Chine dont les excédents sont massifs, croissants, avec tous ses partenaires et notamment avec la France. C'est une menace pour notre industrie, il faut réagir. Donc réagir, on peut le faire d'une manière graduée, mais je crois qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui d'accepter que notre industrie soit écrasée par cette concurrence sans réagir.
Mais quand Emmanuel Macron dit « on est prêt à faire, comme Donald Trump, hein, comme les États-Unis, une augmentation des droits de douane », ça c'est nouveau. Première question, et deuxième question, est-ce qu'on en a vraiment les moyens?
Je crois qu'il dit pas on est prêt à faire comme Donald Trump, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de façons différentes de procéder. Quand l'an dernier, face à la concurrence montante des véhicules, des importations chinoises de véhicules électriques, on a imposé des droits de douane anti-subvention à la suite d'une enquête anti-subvention. Donc on l'a fait sur la base d'une enquête liée aux subventions à l'industrie chinoise, qui montrait que c'était une concurrence qui s'établissait sur des bases qu'on ne considérait pas conformes aux règles. Donc c'était encadré, si vous voulez. C'était pas justement une déclaration de guerre désordonnée et à tout va. C'était quelque chose de plus mesuré, de mieux argumenté.
Est-ce que ça a la moindre chance de marcher, des droits de cette menace de droits de douane contre la Chine?
Oui, mais je crois qu'il faut pas avoir une approche binaire, c'est-à-dire que c'est pas que ça, on va pas contraindre la Chine à tout changer. En revanche, on est bien obligé aujourd'hui d'accepter que on est en train de changer de monde. On n'est plus dans un monde où on peut se réfugier derrière les règles, se dire l'application des règles va être une solution à tout le problème. Malheureusement, ça n'est plus le cas. Il y a un rapport de force et il faut accepter d'entrer dans le rapport de force. On n'a pas tous les atouts, c'est évident, par rapport à la Chine. On a des vulnérabilités, mais l'Europe est une puissance commerciale. Elle est un partenaire indispensable pour la Chine et donc elle peut faire valoir ses atouts et déplacer le problème, essayer de déplacer le problème d'une part dans la négociation et d'autre part protéger son industrie pour limiter les dégâts.
Parce que ce que dit Emmanuel Macron encore une fois dans les colonnes des Échos, c'est, je le cite, hein, les Chinois sont en train de tuer leurs propres clients, ils sont en train de tuer l'industrie européenne, c'est comme ça qu'il le dit. Il prend acte que le libre-échange avec les Chinois, ça a été une très mauvaise affaire pour l'Europe.
C'est-à-dire que la Chine a son système économique. Au moment de son entrée dans l'OMC en 2001, beaucoup espéraient qu'elle convergerait vers l'Europe. On voit bien que ça n'est pas le cas. Et le problème, c'est que cette concurrence avec un système très coordonné, très subventionné, c'est difficile, mais c'était acceptable quand la Chine était relativement petite. Aujourd'hui, où elle est vraiment la superpuissance industrielle et commerciale mondiale, ça devient une vraie menace, y compris pour le cœur de notre industrie, pour le secteur automobile, pour le secteur des machines, pour des secteurs assez sophistiqués. Et donc, on ne peut plus s'en accommoder sans des dégâts vraiment forts pour notre industrie. C'est aussi une façon de faire comprendre aux Chinois qu'il faut qu'ils évoluent et qu'il faut eux non plus n'ont pas intérêt au rapport de force et à une confrontation forte.
Alors, il joue un peu le chaud et le froid, et je me retourne vers Sébastien Berriot qui est à Pékin pour France Info. Ce qui surprend, c'est que parallèlement à ce voyage et puis à ces déclarations assez fortes d'Emmanuel Macron, la Chine fait quelques gestes, notamment sur les vins de Bourgogne.
Oui, avec la reconnaissance donc des AOP pour un certain nombre de producteurs de vins de Bourgogne. Et c'est évidemment une excellente nouvelle pour ces professionnels, mais c'est vraiment un petit geste de la part de la Chine qui ne va pas permettre de combler l'énorme déficit commercial qui pèse sur l'économie française. Et en sachant aussi que sur le vin, la Chine n'est plus l'Eldorado qu'on connaissait dans les années 2010. La consommation ici chute désormais lourdement et de façon continue. Et puis si la Chine fait un effort sur les vins de Bourgogne, elle reste intransigeante sur la question du cognac. Les restrictions décidées par Pékin sont toujours en place pour certains producteurs. Là aussi, un échec depuis de longs mois pour les autorités françaises.
Sébastien Jean, économiste, donnez-nous des ordres de grandeur. Ce geste sur les vins de Bourgogne, c'est totalement anecdotique à l'échelle des échanges entre la Chine et l'Europe.
C'est un débouché significatif pour les producteurs concernés, mais vous l'avez dit, à l'échelle des échanges franco-chinois, à l'échelle d'un déficit bilatéral pour la France qui a approché les 50 milliards d'euros l'an dernier, on comprend bien que c'est effectivement, ça reste anecdotique. C'est un geste, ça montre aussi que justement, il y a aussi une volonté de la part de Pékin de ménager un certain dialogue, mais il ne faut pas s'y tromper. Un partenaire qui est à la fois de ne pas aller à une confrontation, mais en même temps est très dur et résolu à défendre fermement ses intérêts.
Une dernière question sur ces échanges commerciaux entre l'Europe et la Chine. L'Europe, jusqu'à présent, a su jouer la Chine a su jouer des divisions entre les Européens et notamment de la position particulière
de l'Allemagne. Il y a des raisons que ça se poursuive ou est-ce que les Allemands eux-mêmes sont en train de comprendre que ça n'est pas forcément dans l'intérêt de leur industrie ?
Oui, alors donc la première chose, c'est qu'effectivement, la politique commerciale, donc l'accès à notre marché, il est géré au niveau européen. Et ensuite, en effet, il y a des différences d'intérêts entre pays et l'Allemagne, notamment leurs constructeurs automobiles ont des intérêts très importants en Chine qui les amènent à être très soucieux de négocier, de ménager ce partenaire. Je crois que c'est en train de changer, en effet, parce que la menace et les dégâts sur l'industrie allemande sont très visibles parce que elle va mal depuis au moins 3 ans, plus de 3 ans, presque 4 ans. Et donc, c'est lié en partie à la guerre en Ukraine au prix du gaz, c'est lié beaucoup à la concurrence chinoise. Donc, ça fait évoluer les esprits, mais il y a de grandes différences, y compris au sein des économies. Hein. Mmh. Et donc, c'est aussi un jeu interne à l'économie allemande qui fait progressivement évoluer cette position.
Merci beaucoup Sébastien Jean. Je rappelle que vous êtes économiste et spécialiste du commerce international, professeur d'économie au CNAM, directeur associé à l'IFRI. Merci également à Sébastien Berriot qui était en direct de Pékin.
France Info, 6h-9h.
À suivre notre reportage exceptionnel sur une plateforme gazière en mer du Nord. Mais pour le moment, à 7h44, c'est l'info en une minute avec Diane Ferchit. Et à la une ce matin, les reproches de Donald Trump à l'encontre du président ukrainien.
Donald Trump qui se dit déçu. Il affirme que Volodymyr Zelensky n'a pas lu la proposition de paix sur l'Ukraine dévoilée il y a 3 semaines par les États-Unis et qui fait l'objet depuis de discussions, des reproches, alors que le président ukrainien revoit aujourd'hui à Londres ses alliés européens, Emmanuel Macron ainsi que les dirigeants britanniques et allemands pour faire le point sur ces négociations. La France appelle ses ressortissants au Bénin à la plus grande prudence au lendemain d'un coup d'État avorté des militaires qui ont tenté de chasser le président du pouvoir, le président béninois qui assure que la situation est totalement sous contrôle. L'épidémie de bronchiolite et 14 bébés en réanimation en Île-de-France ont dû être transférés vers d'autres régions, principalement vers les CHU de Reims et de Rouen. Les services pédiatriques franciliens sont saturés depuis 2 semaines. Toutes les régions sauf la Corse sont en alerte épidémie pour la bronchiolite. Une œuvre du peintre David Spolier par les nazis figure dans les collections du château de Versailles. C'est une information France Info, un carnet de dessin qui a servi au peintre pour son tableau du serment du jeu de paume. Le château de Versailles l'a acheté légalement. Après la guerre, le ministère de la Culture annonce que des recherches vont être menées.
France Info. Nous embarquons à présent sur une plateforme gazière en mer du Nord. Reportage exceptionnel alors que l'Union européenne envisage d'interdire totalement ses importations de gaz russe dans 2 ans. Comment s'en passer, sachant qu'il représentait encore l'an dernier presque 20% de la consommation européenne? Cela passe par des investissements importants, comme ici, au large du Danemark, gisement exploité par Total Energy. C'est un reportage France Info de Lauriane Delanoé.
Pour rejoindre la plateforme, nous volons 1 heure.
Hello, welcome aboard.
En hélicoptère.
Please make sure your seatbelts are fastened.
Au-dessus de la mer du Nord et d'une mer de nuages.
And welcome to Tyra East.
Là, dans le soleil levant, Tyra apparaît. C'est un gigantesque assemblage d'acier, tout jaune, long de 700 mètres. 5 blocs reliés par des ponts et appuyés sur des piliers plongés dans l'eau. Fleming Maxson est comme
the captain on the ship.
Le capitaine ici. Le responsable de l'installation offshore nous conduit à ces larges tuyaux qui sortent droit de la mer sous nos pieds.
Ce bruit, c'est le flux de gaz qui remonte dans les tuyaux. Oui, vous entendez le gaz. Vous entendez l'argent. Après avoir extrait le gaz de sous la mer, nous le traitons, puis il est acheminé le long du pont là-bas et envoyé dans les pipelines jusqu'à la terre.
Au fil de la visite, dans ce dédale d'escalier métallique, Fleming Maxson enlève ses gants et touche certains tuyaux.
Mettez votre main là, vous sentez ? Ce tuyau est plus chaud, il n'est pas glacé comme tout le reste. C'est parce que ce puits produit en ce moment.
Nous avons foré 86 puits en tout autour de Tyra. Certains ne produisent pas encore.
Précise Alan Thompson qui supervise la production.
Nous les gardons pour plus tard quand les autres déclineront et nous ajouterons de nouveaux puits. Comme ça, notre production restera à 100% pendant plus longtemps.
Alors l'hiver, quand il fait froid, les gars qui travaillent ici enlèvent leurs gants et se réchauffent comme ça.
Ce gaz chauffe aussi un peu les Français et les Européens. La production de Tira couvre 1% de la consommation européenne. Tout au bout de la plateforme, Fleming Maxen, le capitaine, nous montre le point de départ des deux gazoducs.
Voici les dernières vannes de la plateforme. Après, le pipeline repose au fond de l'eau sur plus de 200 km jusqu'aux côtes du Danemark. Et celui-là, c'est le gazoduc vers les Pays-Bas. Ce gaz rejoint le réseau européen. D'ici, le Danemark peut donc fournir du gaz à toute l'Europe. Je suis fier, nous fournissons ce gaz pour aider l'Europe et réduire les ventes des Russes. Nous pouvons maintenant nous débarrasser d'eux, pas seulement avec Tira, non, mais nous y contribuons. Et je suis danois, et pour notre économie, c'est très important d'exporter du gaz plutôt que d'en acheter.
Car ces dernières années, le Danemark a importé plus de gaz qu'il n'en produisait. Tira était à l'arrêt, la plateforme a été complètement reconstruite entre 2019 et 2024, en pleine crise du gaz russe donc. Aujourd'hui, Ole Hansen, le directeur exécutif de Total Energy, en charge de la production et de l'exploration au Danemark, met en avant la souveraineté.
Je pense qu'il vaut mieux produire son propre gaz, et ça a représenté un effort considérable. À nos yeux, Tira est la pierre angulaire du système énergétique danois. Et elle participe à la sécurité d'approvisionnement de l'Europe. En plus, elle contribue à la transition. Elle fournit du gaz pendant que le Danemark et l'Union européenne construisent leur nouveau système basé sur l'électricité.
Et la plateforme elle-même s'est électrifiée, souligne le responsable offshore, Fleming Maxen. Depuis les travaux, trois lourdes turbines à gaz produisent toute son électricité.
Maintenant, toutes nos machines sont électriques. Ça réduit l'impact environnemental. Sur la nouvelle Tira, nous avons réduit les émissions de CO2 de 30%, c'est comme si on retirait 200 000 Clio des routes chaque année.
Ce qui veut dire que Tira émet plus que 450 000 petites voitures. Or, le Danemark vise la neutralité carbone. D'ici 2050, dans 25 ans, la production sera interdite sur Tira et les autres plateformes offshore. Et comme un symbole, au retour, en hélicoptère, nous croisons des éoliennes plantées en mer du Nord.
Reportage France Info, signé Lauriane Delanoë. À 8h10, j'accueille Fanny Guinochet, Renaud Dely, Constance Villanova. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Et je commence par vous, Fanny. Votre décryptage éco, dernière ligne droite avant le vote demain du projet de budget de la Sécurité sociale. Le gouvernement bataille pour son adoption. On va voir ça dans un instant avec Renaud. Et on examine avec vous cet argument. Ce vote, dit le gouvernement, est indispensable pour ne pas creuser encore le déficit.
Car sinon, c'est le dérapage budgétaire assuré. C'est ce que répètent les ministres comme Jean-Pierre Farandou au travail ou Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics. Alors s'il n'y a pas de vote demain dans l'hémicycle, il faut s'attendre à près de 30 milliards d'euros de déficit l'an prochain pour la seule sécurité sociale, soit du jamais vu en dehors d'une crise économique ou d'une crise sanitaire comme le Covid. Bon, s'il y a d'autres du PLFSS, ce projet de loi de finances de la Sécu, eh bien les comptes seront un peu moins dans le rouge, 22 milliards d'euros de déficit l'an prochain, selon les estimations du gouvernement. Mais on est loin, très loin de la copie initiale qui visait entre guillemets 17 milliards et demi d'euros seulement. Mais à chaque concession, comme la suspension de la réforme des retraites ou encore la moindre hausse de la CSG ou encore l'annulation du gel des pensions de retraite et des prestations sociales, eh bien chaque concession creuse encore le trou de la Sécu.
Mais le gouvernement table sur un déficit en dessous des 5,4% du PIB annoncé.
Oui, pour cette année, pour 2025, ça va certainement être meilleur que prévu parce que la croissance est un peu supérieure cette fin d'année, 0,8% au lieu de 0,7%. C'est ce qu'a expliqué Roland Lescure, le ministre de l'économie, parce qu'on a eu un très bon troisième trimestre, que l'État a fait un peu plus d'économies, autrement dit, il s'est serré la ceinture, mais aussi parce que les entreprises françaises ont été un peu plus résilientes, et puis enfin, parce que les recettes fiscales sont plus importantes qu'attendues.
Et fini les couacs des années précédentes.
Bien disons qu'après les erreurs de Bercy qui ont conduit à des dizaines de milliards d'euros manquants dans les caisses et qui ont nourri la polémique, Le gouvernement reste prudent, il refuse de commenter, mais oui, hein, les recettes de TVA, qui sont de loin les principales rentrées fiscales, sont en effet visiblement plus importantes cette année. Pareil pour l'impôt sur le revenu. C'est donc une bonne surprise. Après, comme dit le proverbe, une hirondelle ne fait pas le printemps. Le déficit redescendrait légèrement à 5,3% du PIB au lieu de 5,4%. C'est-à-dire que l'amélioration reste très très légère et la France, hélas, resterait quand même parmi les plus mauvais élèves de la zone euro.
Votre chiffre du jour.
38%, c'est la part du capital de Total Energy que détiennent déjà les Américains, mais le groupe pétrolier va un cran plus loin et aujourd'hui, il inscrit sa pleine cotation à la bourse de Wall Street à New York.
Fanny Guinochet.
Le décryptage éco avec la Banque Transatlantique, maison de gestion de fortune et créatrice d'opportunités.
Et dans votre édito, Renaud Dely, on continue de parler de ce vote décisif. Politiquement, on est à la veille de ce vote. Sébastien Lecornu avance sur un fil.
Et oui, Jérôme, le Premier ministre le plus faible de la Ve République, comme il se définit lui-même, peut-il accomplir l'un des tours de force les plus improbables de l'histoire parlementaire? Le locataire de Matignon, le plus isolé de ces dernières décennies, va-t-il parvenir à faire adopter le projet de loi de financement de la Sécurité sociale sans recourir à l'article 49.3 sur le papier? Non seulement il n'a pas de majorité, mais il ne peut même plus compter sur l'appui sans faille du défunt socle commun. Le groupe Horizon d'Édouard Philippe, fort de 34 députés, persiste à refuser d'approuver le budget de la Sécu. Et puis la droite n'y est pas beaucoup plus favorable. Bruno Retailleau, d'ailleurs, a même de nouveau appelé hier les 49 députés LR à s'y opposer. Rien n'est donc acquis, Jérôme. Le vote de demain se jouera à une poignée de voix. Mais si Sébastien Lecornu a encore une chance de réussir son pari, c'est sans doute parce qu'il a pris le contre-pied de la méthode perdante de ses deux prédécesseurs.
C'est-à-dire ?
François Bayrou parlait beaucoup, il prenait à témoin l'opinion, mais en fait, il n'entreprenait guère les députés, il ne les gérait pas vraiment, il donnait même parfois l'impression de les snober. À ses yeux, au vu de la gravité de la situation financière du pays, c'était à prendre ou à laisser jusqu'à son harakiri final, ce vote de confiance incompris et voué à l'échec. La méthode Lecornu, c'est au contraire une parole publique rare, pour ne pas donner prise à ceux qui veulent le faire chuter, une omniprésence dans l'hémicycle, jusqu'à des heures très tardives, et puis des discussions interminables en petits comités, parfois même en face-à-face, pour arracher un à un les soutiens des députés. Quant à Michel Barnier, souvenez-vous, il s'était mis dans la main de Marine Le Pen, ce qui lui interdisait toute indulgence de la part de la gauche. Et il avait peu à peu cédé à certaines demandes du Rassemblement National avant que la chef de file de l'extrême droite ne décide de lui asséner le coup de grâce. Sébastien Lecornu, lui, a choisi de négocier avec un partenaire plus fiable, le Parti Socialiste, même si l'addition de ses concessions s'avère très élevée.
Sans garantie de succès.
C'est vrai, c'est vrai. Mais si ça rate, il ne serait pas forcément contraint de démissionner, en tout cas pas tout de suite, puisqu'il n'a pas engagé le 49-3. La porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, a d'ailleurs écarté l'hypothèse hier. Sébastien Lecornu serait bien sûr très fragilisé, l'adoption du projet de loi de finances encore plus incertaine. Mais son style, sa communication minimale, son air penaud, son ton un peu triste pour implorer à la responsabilité, et même ses pulls bon marché, Jérôme. Bref, toute cette humilité affichée peut lui permettre de limiter les dégâts. S'il finit par échouer après s'être donné tant de mal, on l'imagine volontiers entonner la fameuse complainte de Calimero. C'est toujours sur moi que ça retombe, c'est injuste, c'est vraiment trop injuste.
C'était l'édito de Renaud Dely.
Il est 8h05 sur France Info, il fait 13 à Tours.
Et c'est l'œil de Constance. Constance Villanova, vous nous parlez d'un championnat du monde d'Excel, le logiciel de tableur, un domaine où l'intelligence artificielle ne fait pas mieux que l'humain.
Mais pour une fois, la semaine dernière, l'HyperX Arena de Las Vegas accueillait les Microsoft Excel World Championship. Excel, créé en 1985, c'est ce tableur qui range, organise et fait parler les chiffres. C'est mon pire cauchemar. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il analyse des milliers de lignes en quelques secondes. Mais malgré cette déferlante IA, la compétence Excel reste un pilier en entreprise. Près de 9 équipes financières sur 10 l'utilisent encore au quotidien. Parce que c'est encore la logique humaine qui fait la différence. Structurer un problème, décider, comprendre ce que les données racontent
et
vraiment.
Et c'est précisément ce que met en scène ce championnat.
Les athlètes du Microsoft Excel Championship, des comptables, contrôleurs de gestion, analystes venus du monde entier. Ils étaient 600 à s'affronter à Vegas pour 24 finalistes. Une compète diffusée et commentée sur la chaîne sportive la plus mythique des États-Unis, ESPN. Ces athlètes acclamés comme des rockstars résolvent des scénarios complexes, logique, stratégie, intuition. Mmh. Une demi-heure pour décortiquer un labyrinthe ou reconstituer un jeu de cartes à coups de formules. Des maths, mais surtout un génial terrain d'aventure, raconte en interview le Québécois Philippe Morin.
On commence en utilisant Excel au travail, puis après ça, Excel, c'est un outil pour résoudre des problèmes. C'est pas... ça permet de faire des budgets, ça permet de faire de la comptabilité, mais je le vois jouer avec Excel, jouer avec les chiffres.
Et alors, qui a gagné?
3, 2, 1... And we're done.
C'est l'Américain Diamond Hurley qui l'emporte avec 1250 points, un trophée et $5,000. À l'heure où l'IA automatise beaucoup, cette finale rappelle que comprendre, modéliser, raisonner vite, ça reste une affaire humaine. Et qu'une vraie maîtrise d'Excel continue d'être un atout sur un CV comme sur une scène à Las Vegas.
Un Family Nocher et dans ses tableaux Excel.
C'est pas les petits. C'est pas les
Christine. Il ne peut pas copier sur Christine.
C'est pas les petits chanteurs à la croix de bois.
Mais oui, on connaît évidemment. C'est Europe. Europe.
Allons bon.
Merci Constance. Allez réviser vos tableaux. Renaud Dely.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France. À retrouver sur malongo.com.
Et vos tableaux Excel de la température n'y comprennent plus rien, Christine Peignam. On va d'abord parler du soleil, qui reprend l'avantage.
Oui, on a une situation très connue là aussi, un soleil au sud et nuages au nord, avec des pluies un peu plus continues vers la Bretagne et la Normandie. Elles mettront du temps à s'évacuer. On aura quand même un peu moins qu'hier. Pas de pluie, quasiment pas en Île-de-France, mais beaucoup de nuages qui restent en place comme jusqu'à la Champagne, l'Alsace également, alors que la Bourgogne, le centre Val-de-Loire et les Pays de la Loire retrouveront un peu de soleil. Ce soleil qui restera en place sur toute la moitié sud avec une vraie impression printanière. Nous avons des températures qui grimpent. Alors déjà ce matin, il fait très très doux sous cette pluie et ces nuages sur le nord avec entre 14 et 15 degrés. Hein, 15 degrés du côté de Nantes par exemple, 14 à 13 degrés en banlieue parisienne. À Paris, 14 degrés comme en Bretagne en ce moment alors qu'il fait à peine 3 degrés du côté d'Agen dans le sud-ouest où le ciel est dégagée. On a pas mal de brouillard, mais ça va se lever. Et cet après-midi, la masse d'air deviendra assez homogène. 15 degrés à Lille, comme à Montélimar, comme à Paris, Dijon et Lyon. 17 au Mans, à Nantes, à Toulouse, à Nîmes et presque 20 degrés près des Pyrénées.
Merci Christine Peignat. Je vous donne un rendez-vous dans 10 minutes sur France Info. Comment le château de Versailles se retrouve propriétaire d'un bien volé par les nazis. C'est un carnet de dessin du peintre David. Enquête et révélation France Info, juste après le journal de 8h.